Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC, agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur FPP, 106.3, rue de la Solidarité ou 1 rue de la Solidarité. C'est Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Ce soir, nous tenons à dédier cette émission à Claire Villiers, qui est morte ce matin d'un cancer. Pour tous les militants d'AC, Claire Villiers est une figure bien connue du mouvement social, puisque c'est une des fondatrices d'AC et elle n'avait cessé tout au long de sa vie de défendre les chômeurs et les précaires. Et nous tenons ce soir particulièrement à saluer sa mémoire et à lui dédier cette émission. Cette émission qui parlera justement des femmes et du travail des femmes lors d'un colloque du vendredi du 22 octobre à l'hôtel de ville de Paris. Odile, qui est une de nos reporters, a enregistré Rachel Silvera du labo CNRS MASH pour nous parler du chômage et de la précarité d'emploi des femmes. Maryse Dumas de la CGT qui nous parlera de la précarité et du syndicalisme des femmes. Et puis Christiane Marty d'Attaque qui, elle, nous parlera des retraites. Tout de suite.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Alors, dans un premier temps, revenir sur les taux de chômage. Oui, effectivement, pour la première fois en 2009, on s'est un peu affolé parce que le chômage des hommes a augmenté plus vite que celui des femmes. Encore faut-il prendre et discuter de l'indicateur revenu. On est aujourd'hui, chiffre purement officiel, on sait très bien qu'on peut quasiment, pas doubler, mais rajouter au moins 50% dans ces chiffres, on serait autour de 10% officiellement de chômage, que ce soit des hommes ou des femmes. Et pour la première fois depuis fort longtemps, je ne sais pas remonter dans le temps, peut-être depuis toujours, les taux masculins ont augmenté plus vite que ceux des femmes, et ce qu'on appelait le surchômage féminin ne se voit plus dans cette statistique officielle qui reprend donc la définition du BIT. Cet écart était de 3 points dans les années 80, hein, l'écart entre le taux de chômage des femmes et des hommes. Il stagnait à 1 point, et puis, depuis 2009, le scoop, plus d'écart de chômage entre hommes et femmes. Que se passe-t-il ? Quel est ce fait historique ? D'autant plus qu'on avait insisté, avant les travaux de l'Observatoire de l'égalité dont nous a parlé Fatima, sur le fait que les jeunes garçons avaient une croissance de leur chômage beaucoup plus forte que les jeunes filles ou que l'ensemble des catégories d'âge. Est-ce qu'enfin les réussites scolaires des filles étaient payées ? Donc, ce qui expliquerait que le chômage des femmes avait moins augmenté. Est-ce que finalement, c'est intéressant de se poser cette question, la ségrégation professionnelle, le fait que les femmes soient dans des secteurs comme les services et moins dans l'industrie, les aurait protégées contre cette crise ? On pourrait se poser vraiment cette question. Et du coup, se demander si ce n'est pas une bonne chose que les femmes soient finalement dans des secteurs relativement plus protégés. Enfin, est-ce qu'on peut globalement dire que finalement les inégalités dans l'emploi sont en passe de disparaître ? Vous voyez, j'en suis sûre qu'à travers le ton de mes questions, je ne suis pas du tout convaincue par cette réalité. Et je reprendrai les travaux de Françoise Milewski, qui avait été une des animatrices d'ailleurs du colloque de l'an passé à l'OSCE, qui avait écrit un premier papier où elle disait « Attention, une crise peut en cacher une autre ». Effectivement, il y a un décalage d'abord dans le temps. Si d'abord les hommes ont été touchés par le chômage, ensuite un certain rattrapage dont on a moins parlé a concerné le chômage des femmes. Et là, on ne peut pas encore bien voir ce qu'il en est et ce qu'il en sera, de ce chômage des femmes qui à nouveau reprendrait. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est de s'intéresser, excusez-moi d'être un peu technique, mais quand même, à une autre mesure du chômage, c'est celle du Pôle emploi, c'est celle des demandeurs d'emploi. Et vous savez qu'il y a une partie visible, hein, la partie visible que l'on montre, que l'on suit statistiquement, ce sont les chômeurs dits de catégorie A, c'était bien statistique du chômage. Ce sont en fait les vrais chômeurs, c'est-à-dire ceux qui sont chômeurs à temps plein, si je peux me permettre cette remarque, qui n'ont pas du tout d'emploi. Et c'est vrai que quand on regarde que cette catégorie-là, effectivement, on a des vrais chômeurs qui sont plus des hommes que des femmes. Et c'est cette croissance-là qui a interpellé les médias, les pouvoirs publics. Mais si on s'intéresse aussi au-dessous des demandeurs d'emploi, à savoir ce qu'on appelle, vous savez, il y a au moins 6 ou 7 catégories, on ne va pas rentrer dans le détail, je vois ceux qui connaissent comment ça s'appelait. Non, juste la catégorie B et C, les chômeurs, tout de même. Il s'agit des chômeurs à temps partiel, si je puis dire, c'est-à-dire qui ont eu, on joue vraiment sur les mots, une activité réduite, qu'elle soit courte, c'est-à-dire de moins de 78 heures, qu'elle soit plus longue, c'est-à-dire de plus de 78 heures. Or, si on prend en compte ces chômeurs-là, en gros, on a 50% de plus de chômeurs par rapport à la catégorie A, d'accord ? Selon le Pôle emploi, 2,6 millions de chômeurs, de vrais chômeurs, 1,2 million de chômeurs à temps partiel. Donc vous voyez comment on masque les statistiques en ne prenant que cette partie visible de l'iceberg. La question est bien plus importante si on prend les deux. Et puis surtout, quand on regarde les catégories B et C, on voit apparaître à nouveau les femmes. Et là, la croissance des demandeurs d'emploi, sous forme d'activité réduite, qui ont travaillé quelque peu, est nettement plus rapide. En ce qui concerne les femmes, ça touche beaucoup plus de femmes. Et qui plus est, la répartition entre hommes et femmes de ces catégories, pour les hommes, il s'agit surtout chômeurs à temps, en activité réduite longue. Et pour les femmes, il y a autant de demandeurs d'emploi en activité réduite courte que longue. Donc derrière cela, vous voyez qu'on peut dire, il y a bien une précarité qui s'installe, que l'on ne voit pas, qu'on ne veut pas. Ce qui est certain, c'est qu'on a entendu parler des restructurations dans l'industrie toute l'année dernière, depuis 2 ans, qui ont touché effectivement massivement les hommes et moins peut-être des secteurs féminisés. Mais progressivement, on le sait, ces restructurations gagnent un certain nombre d'activités qui concernent les femmes, je pense au textile, et qui plus est, les créations d'emplois qu'on pouvait repérer dans les secteurs comme les services à la personne tendent à se ralentir très fortement. Juste un chiffre, on avait une croissance annuelle moyenne de 8% du service à la personne dans ce secteur, elle n'est plus que de moins de 2% désormais. Donc on voit bien qu'il y a des effets plus induits, moins visibles, qui apparaissent. Ceci dit, donc, je le disais, il y a eu une vraie casse industrielle qui a concerné le noyau dur des salariés, ceux qui pensaient, sans être fonctionnaires, appartenir quand même à ce qu'on appelle le secteur primaire de l'économie, être dans le noyau plutôt stable de l'emploi, ceux qui, par exemple, pouvaient dire « je n'ai jamais eu à faire un CV dans ma vie, puisque, finalement, j'avais quelque part un emploi à vie dans cette boîte, avec 30, parfois 40 ans d'ancienneté. » Et c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de parler de Continental, de Rolex, d'Alistelon, d'ArcelorMittal, etc., de ces entreprises où les salariés, plutôt des hommes, se sont mobilisés jusqu'à parfois avoir recours à la violence pour se faire entendre, pour exiger soit qu'il n'y ait pas de plan social, en tout cas aussi dur, ou qu'il y ait des contreparties à ces actions. Je suppose que Marie-Zé reviendra, je ne veux pas déborder. Mon deuxième point, c'est de vous montrer que la crise a quand même touché les femmes. De deux façons, à mon sens. Tout d'abord, sans qu'on en parle autant, c'est pour ça que j'avais aussi parlé des dessous de la crise économique, il y a eu des restructurations dans le textile, notamment dans les dessous féminins. Et je pense à Obag, qui a fait très peu de bruit. Je ne voudrais pas faire de la publicité pour Obag, même si c'est un produit que j'aime beaucoup, mais qui a fait peu de bruit, parce que il y a eu une petite manifestation à Saint-Savin dans un petit village, mais n'empêche, là, on a annoncé une fermeture d'un établissement. C'était la deuxième fois que Obag, via le groupe Calida, fermait, annonçait un plan social sous couvert de crise économique, en prétendant que la baisse des ventes de la lingerie de luxe justifiait cette décision. Alors même que le bénéfice net, certes, en recul, était encore extrêmement élevé durant cette même période, alors même qu'on savait très bien qu'une délocalisation nouvelle se préparait en Tunisie, ça avait déjà été le cas, là où, en gros, les coûts de fabrication sont 2 à 3 fois inférieurs. La crise a bon dos dans ce cas-là, car on licencie au nom de cette crise financière, mais on sait très bien qu'il ne s'agit pas simplement de cela, mais bien d'une logique industrielle de délocalisation. Et là, ce sont des femmes, comme par hasard, qui ont été concernées, dont on a peu parlé, dont on a pas parlé. Plus récemment, le Jamais, là encore, qui est dessous, où, pour une fois, on en a un peu parlé, des ouvrières, toutes les ouvrières se sont mobilisées en septembre dernier, avec 20 jours d'occupation de leur usine, contre un plan social, et on vient d'apprendre que ce plan a été recalé par le tribunal de grande instance de Lyon. Là aussi, une délocalisation masquée par la crise était annoncée. Pour le moment, cette affaire n'est pas réglée. Juste une remarque, on a peut-être un peu plus parlé de Loujali parce qu'elles ont occupé, un peu comme les hommes, leur usine. Je voudrais parler des formes de mobilisation qui sont différentes. Mais ce qui ressort de cela, c'est que quelque part, on a l'impression que lorsqu'une entreprise de femmes ferme, et ça nous replonge dans les années 50-60, là, au début de l'explosion du salariat des femmes, c'est pas si grave que ça. On a le sentiment que finalement, les femmes, quand elles travaillent, ben, je reviens à cette idée, c'est plutôt pour un salaire d'appoint, c'est plutôt, on disait au début du siècle, pour s'acheter leur bas de soie, mais il y a encore cette image, je reviens sur les dessous, que finalement, derrière une femme, c'est pas grave, il y a un ménage, il y a un homme qui sera là pour assurer le niveau de vie de cette personne. Et je pense que cette idée est encore très vivante dans nos esprits. Cela fait 60 ans que le salaire féminin, les abattements sur le salaire des femmes ont disparu. Mais à mon sens, cette idée est toujours là. Il y a toujours une idée qui paraît logique qu'une femme soit payée moins. C'est pas très grave. Qu'elle perde son emploi, c'est pas si grave que ça. Parce qu'au fond, elle pourra retrouver la douceur de son ménage, le sourire de ses enfants, pour aller vite. Alors que pour les hommes, c'est pas pareil. Eux, ce qui est central, c'est le travail d'abord, la famille après. Alors, bien sûr, c'est contesté, c'est contestable, je plaisante un tout petit peu, mais il y a de ça, il y a de ça. La deuxième forme d'expression de la crise sur les femmes, dont on a commencé à parler au tout début, c'est que si les femmes seraient moins concernées par le chômage, ce qui reste à démontrer, elles sont en revanche nettement plus concernées par la précarité, par le développement des emplois à temps partiel court. Et là, les statistiques, quand ça nous arrange, on les prend, le montrent. Le temps partiel qui s'était stabilisé depuis ces dernières années a à nouveau réaugmenté depuis l'année dernière. Et donc, c'est bien un indicateur, ça se passe d'ailleurs partout en Europe, qui démontre que le temps partiel qu'on pensait limité du fait de la fin des exonérations de charges pour ce temps partiel, eh bien redémarre, même s'il n'y a pas ces exonérations de charges. Et c'est surtout pour les jeunes filles que cela se joue. Ça, c'est important. Leur taux de chômage, de temps partiel, pardon, a augmenté de 6 points sur cette année, depuis 2008. Et ce que l'on remarque, là aussi, on ne vient pas nous dire que c'est pour mieux concilier nos vies. Elles ont entre 16 et 24 ans. Il ne s'agit pas de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Il s'agit, faute de mieux, d'accepter n'importe quel emploi. Alors peut-être que le partage serait comme ça. Les femmes accepteraient un petit boulot, des heures de travail pour les familles, pendant que les hommes se retrouvent, eux, parce qu'ils étaient plutôt, ils sont majoritairement à temps plein, remis en cause carrément via le chômage. Donc, ici, j'en arrive à mon troisième point, quelle est la réponse des politiques publiques dans ce domaine. Et je voudrais faire un parallèle entre deux outils, deux formes de ce qu'on appelle le sous-emploi, c'est-à-dire le fait de ne pas travailler autant qu'on souhaite. C'est d'une part, d'un côté, le chômage partiel pour les hommes et de l'autre, le temps partiel pour les femmes. Alors, c'est d'autant plus drôle que vous rappelez peut-être que notre président a souhaité que le mot chômage partiel soit remplacé par activité partielle. Alors, c'est encore plus drôle parce que du coup, on pourrait comparer l'activité partielle et le travail à temps partiel. La frontière est plus que ténue, pas. Et pour autant, eh bien, il se passe des grandes différences. Alors, revenons un petit peu en arrière, on annonce la crise économique et on lance un plan de sauvegarde de l'emploi. Et là, très vite, partenaires sociaux se réunissent avec l'État, pour le coup par rapport aux retraites, tous les acteurs se réunissent et tous s'accordent sur le fait que le chômage partiel doit être favorisé, doit être mieux couvert pour permettre au gros des troupes, des victimes des restructurations, à savoir des hommes, d'être mieux protégés. Et donc je rappelle rapidement le fait que pour le chômage partiel, on a amélioré l'indemnisation, elle est passée de 50 à 60%, c'est-à-dire du brut, donc 70% du salaire net. Puis en 2009, on a envisagé que les accords collectifs pouvaient aller jusqu'à 75% du salaire brut, et on a permis un allongement de ces durées avec une participation de l'État qui prend en charge la moitié de ces coûts nouveaux pour les entreprises. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais vous voyez que le chômage partiel a été largement pris en compte, à juste titre, il ne s'agit pas de dire cela. Je n'ai pas trouvé de statistiques, j'en cherche, d'ailleurs je lance un appel, sur la part des femmes, la part des hommes concernés par le chômage partiel. On ne trouve pas cette statistique. Alors peut-être qu'il y a des gens qui travaillent dans les statistiques ici, mais n'empêche, on se doute qu'au regard des secteurs les plus concernés par le chômage partiel, ce sont surtout des hommes qui ont besoin du chômage partiel. Alors que là, on le sait, le temps partiel subi court, c'est une très large majorité de femmes. Or, de ce côté-là, rien de nouveau sous le soleil, on n'a jamais pensé à indemniser, compenser ou pénaliser les entreprises utilisatrices de temps partiel court. Mon propos est de vous dire, mais entre le chômage ou alors l'activité partielle et le temps partiel court, il y a quand même beaucoup de points communs. C'est le fait de l'employeur, c'est pas le choix du salarié, ça on en est sûr. C'est une réduction d'activité importante dans les deux cas et involontaire, c'est donc dans les deux cas du sous-emploi. Et pourtant, on dirait le côté Canada Dry, le chômage partiel, à la différence du temps partiel, est provisoire. Il y a l'idée qu'à un moment donné, la conjoncture va permettre de sortir du chômage partiel pour rester dans l'emploi. Et d'ailleurs, le contrat de travail n'est pas rompu. Et puis surtout, le chômage partiel, je viens de le dire, est mieux indemnisé, alors que le temps partiel ne l'est pas du tout. Pas du tout, c'est même le contraire. Vous avez vu qu'une heure peut être même pas payée au SMIC horaire. Comment comprendre cette différence de traitement si ce n'est en revenant sur un data que l'on a à Mage, un terme qu'on aime beaucoup, qui nous vient de Thérèse Adam, ce que Margaret Marconi a valorisé, si ce n'est en voyant une tolérance sociale aux inégalités à l'égard des femmes. Là encore, c'est moins grave pour elles d'être en temps partiel, même si on ne la protège pas. Alors le chômage partiel mérite tout de suite un regard tous les acteurs sociaux. Lorsque on voit cette situation, on se dit, ça sera le mot de la fin de mon propos, qu'il est temps de considérer toutes ces formes de sous-emploi de la même façon. Elles sont issues de la crise économique, elles sont issues de stratégies financières de la part des entreprises, et elles font des victimes, on l'a vu, qui concernent surtout les femmes les moins qualifiées dans notre société, celles qui ont le moins de ressources possibles pour s'en sortir. Il est temps de réfléchir à des compensations en ce qui concerne le temps partiel subi, et je ferai un pont avec le débat qu'on aura cet après-midi la question des retraites. Pourquoi pas, par exemple, envisager une surcotisation de ce temps partiel subi que devraient payer les entreprises qui utilisent ce temps partiel court, dégradant. Ça serait exactement l'inverse. Je ne sais pas si Mme Aubry sera favorable à ce dispositif, avec ce qui avait été développé dans l'idée d'exonérer des charges sociales, une partie des charges sociales, moi je me dis on va taxer d'autant 30-40% supplémentaires, et qui plus est, à travers cette idée de surcotisation, il s'agit bien entendu de limiter le recours à ce temps partiel, et pourquoi pas, en attendant, de pouvoir avoir une nouvelle source de financement par rapport à nos débats sur les retraites. Voilà, donc un exemple, je suis sûre qu'il y a d'autres mesures à prendre, je voulais juste insister sur cette double façon de voir et de lire la crise aujourd'hui. à travers la question du genre. Merci.
Bonsoir, vous êtes toujours sur FPP dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Vous venez d'écouter Rachel Silvera, qui est chercheuse au CNRS et qui nous expliquait les effets de la crise sur l'emploi des femmes au-delà des apparences statistiques, c'est-à-dire au-delà de l'augmentation plus rapide du taux de chômage des hommes par rapport aux femmes. Le débat étant bien entendu que le taux d'activité des femmes augmentant au cours de ces dernières années, on a tendance à penser qu'il pénalisait celui des hommes, mais évidemment, Rachel Silvera et à sa suite Maryse Dumas nous expliquent et va nous expliquer qu'il s'agit bien d'emplois à temps partiel. Et donc on écoute tout de suite Maryse Dumas qui nous parle du chômage à temps partiel des femmes et du syndicalisme ou du recours au syndicat quand on travaille à temps partiel.
Alors, maintenant j'attaque le cœur de mon intervention en trois points. Je vais essayer d'être relativement brève. Le premier, c'est le fait qu'il n'y a pas une, mais des précarités. Le deuxième, la question de l'objet de l'action syndicale, qui est de permettre que les salariés prennent elles-mêmes leur devenir en main. Et la troisième partie, la responsabilité propre de l'organisation syndicale en termes de pratique, en termes d'orientation, en termes de stratégie, de proposition revendicative. Donc sur le premier point, il n'y a pas une mais des précarités. Là aussi, on parle vite, donc on amalgame des situations différentes. La précarité, ça peut être la précarité liée au contrat de travail, c'est-à-dire un contrat de travail qui est temporaire, les CDD qui alternent, qui n'alternent pas, la recherche des heures, comme le dit Florence Obna dans son livre, donc ce qui est lié à la précarité du contrat de travail. Mais si on est en CDI, mais à temps partiel, on est aussi en précarité. Et là, c'est une autre précarité. C'est celle de la précarité du niveau de vie, de la précarité du niveau de salaire. Et si, même en CDI et à temps plein, on est femme seule avec plusieurs enfants, en situation de famille monoparentale, eh bien là aussi, on se sent en situation de précarité parce que chaque jour est difficile à vivre, chaque responsabilité est difficile à assumer. Et en plus, on peut être en CDI à temps plein avec un salaire relativement correct, mais si on sent que son entreprise est dans une difficulté monstre et qu'elle n'a pas d'avenir, on se sent aussi en situation de précarité. Et se rajoute à tout cela, se rajoute enfin autre caractéristique, eh bien quand on est étrangère en France, et encore plus quand on n'a pas de papier. En règle, alors là, c'est la précarité des précarités, c'est l'invisibilité totale, même si vous êtes diplômé, même si vous avez un emploi, le seul fait que vous puissiez être arrêté et mis dans un charter en sortant dans la rue, vous met dans une situation de précarité et de subordination totale à l'emploi. Et donc, syndicalement, puisque c'est la question qui est posée, nous ne pouvons travailler ces sujets-là qu'en répondant à ces réalités multiples par des pratiques et des revendications multiples. C'est-à-dire en prenant chacune des situations. Quand vous êtes en CDD, vous avez envie de passer en CDI. Et quand vous êtes en CDI à temps partiel, vous avez envie de passer au temps plein. Et quand vous êtes dans une entreprise menacée, votre première préoccupation, c'est celle de l'avenir de l'entreprise. Et ça donne donc des réponses syndicales différenciées à chaque fois, mais qui toutes, même si elles sont différenciées concrètement, elles doivent viser un sens commun, qui est celui de permettre à ces femmes de sortir de la précarité, de devenir des salariés à part entière, d'asseoir leur droit au travail, leur droit à vivre décemment de leur travail. Mais nous savons aussi que syndicalement, nous ne construisons pas les réponses de la même façon selon la façon dont est organisée la précarité dans l'entreprise ou dans l'établissement public. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout la même chose selon qu'on est, par exemple, chez un employeur public où la majorité des emplois sont statutaires et à temps plein, et où il y a des salariés. D'ailleurs, il faut s'interroger sur le fait qu'on les présente toujours en nom quelque chose. Non titulaire. Non statutaire. En négatif. Le vocabulaire est très important. Donc, une masse d'emplois dans la fonction publique qui ne sont pas statutaires, qui ne sont pas dans les formes naturelles d'emploi public, mais où donc, pour ces salariés, la référence, c'est l'emploi statutaire qui existe. C'est se dire, il faut que j'accède à cet emploi-là. Ce n'est pas la même réalité et la même façon de construire les revendications que dans des entreprises où il n'y a que des emplois précaires. On a parlé du nettoyage, de l'aide aux personnes âgées, etc. Et enfin, ce n'est pas du tout la même chose non plus selon que vous êtes dans un établissement où vous avez plusieurs personnes qui sont dans des catégories d'emploi qui sont équivalentes et qui donc peuvent construire du commun, construire du collectif, construire des revendications collectives, ou qu'on a affaire à des salariés avec les services à la personne, c'est l'emploi qui se développe le plus, qui sont confrontés à des employeurs individuels qui sont seuls dans leur boulot et confrontés à des employeurs, c'est des emplois d'aide ménagère, d'assistante maternelle, etc. Et là, pour le syndicat, le premier objectif, c'est de reconstruire du collectif. Alors j'en suis à ma deuxième partie, l'objet de l'action syndicale. L'objet de l'action syndicale, je dirais partout, en tout lieu et pour tout le monde, mais quel que soit le sexe et la situation, c'est de permettre que ce soit les personnes elles-mêmes qui prennent leur devenir en main. Le syndicalisme, ce n'est pas une institution. Le syndicalisme, c'est une œuvre humaine. C'est-à-dire que ce sont ceux et celles qui composent le syndicat qui font que le syndicat est plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. C'est pour bien le faire comprendre, quand vous voyez la CGT de Monoprix, eh ben, ce n'est pas la CGT de Total. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas parce que d'un mot, la Confédération aurait décidé que ce serait différent. Non, c'est parce que ce sont les salariés qui font le syndicat là où ils sont, où elles sont, dans leur entreprise, dans leur localité, dans leur profession, eh ben, qui donnent à la fois l'image du syndicat, qui font sa composition et celle qu'on voit, mais qui font aussi les revendications. Et l'un des problèmes que nous rencontrons, c'est que les salariés les plus fragiles dont nous parlons aujourd'hui sont aussi les moins syndiqués. Et donc, comme le syndicat, il est le reflet de ceux qui sont, de ceux et celles qui sont syndiqués, il a tendance, naturellement, spontanément, si on n'y fait pas attention, il a tendance à ne représenter et à ne parler que de ceux qui sont syndiqués. Donc, plutôt les hommes, plutôt les salariés en emploi stable, plutôt les grandes entreprises. Et donc, il faut faire un effort considérable, et c'est celui auquel la CGT s'attache, pour que on anticipe en quelque sorte, qu'on se déploie et qu'on parle et qu'on aide à faire parler celles qui ne sont pas syndiquées. Et ça n'est pas, il faut comprendre que ça n'est pas facile, hein, et que c'est même excessivement difficile. La deuxième chose que je veux dire à propos du syndicalisme, c'est que le syndicalisme, c'est une école de liberté. C'est une école de dignité et une école de liberté. C'est-à-dire que la première chose qu'on apprend quand on se syndique, on ne se syndique pas à la Confédération d'Entraide. On se syndique là où on est, c'est-à-dire dans un établissement, dans une entreprise. Et la première chose qu'on apprend, c'est à rencontrer d'autres personnes qui partagent le même vécu que vous. Et vous apprenez à parler. c'est-à-dire à exprimer ce que vous avez en vous, à exprimer ce que sont vos attentes, à exprimer ce que sont vos doutes, à exprimer ce que sont vos peurs, à exprimer ce que sont vos révoltes. Et ça, cette idée que le syndicalisme, c'est là où on apprend à s'exprimer, à dire ce qu'on a en soi. C'est, je crois, pour les femmes en situation de précarité, c'est un aspect hyper important. Parce que c'est ce qui leur permet de prendre conscience d'elles-mêmes, de sortir d'une image dévalorisée, dévalorisante d'elles-mêmes, de se dire qu'elles ont quelque chose à partager avec les autres, et déjà en le disant, même afin de construire l'action collective, déjà en le disant, eh bien, il y a un aspect libérateur par rapport à la situation qui leur est faite. Le problème, comme je le disais, c'est que le syndicalisme est le plus absent de là où les salariés sont les plus fragiles. C'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, c'est vrai pour les hommes aussi. Hein, la majorité des salariés travaillent dans des entreprises de moins de 50, et c'est là que le syndicalisme, pas seulement la CGT, tous les syndicats, sont les plus absents, et c'est là que les salariés sont les plus mal payés, que le code du travail est le moins respecté, que les durées de travail sont les plus longues, enfin j'en passe des meilleurs. Mais c'est aussi là qu'il y a le plus de femmes. Et même, si vous voulez, dans ces absences, c'est encore plus vrai pour les salariés en précarité. Qu'on a énormément de mal à connaître. On parle de l'invisibilité. Dans une entreprise, même quand le syndicat existe, on voit et on connaît les salariés qui sont stables, c'est-à-dire qui viennent régulièrement, aux mêmes horaires, etc. Par contre, les salariés qui viennent faire le ménage le matin et le soir, on ne les voit pas. Les salariés qui sont là de façon intermittente, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, on n'a pas le temps de les repérer, que déjà, ils ou elles ne sont plus là. Donc, trouver des lieux où on puisse contacter les salariés, où on puisse leur permettre de se rencontrer et de faire l'expérience qu'on a quelque chose de commun à faire ensemble, c'est le béaba de l'action syndicale et c'est pourtant décisif. Et je veux dire que dans le mouvement que nous connaissons aujourd'hui, qui est sur les retraites, je crois que quelque chose est en train de se passer. Parce que entre deux grandes journées à l'appel de l'intersyndicale, il y a actuellement une démultiplication d'initiatives locales très décentralisées qui sont justement des lieux de rencontre entre des salariés de statuts différents, d'employeurs différents, etc., etc. Et où on sent que les gens ont envie de participer au mouvement, mais dans des formes dans lesquelles ils peuvent le faire compte tenu de leur situation d'emploi, de salaire, etc., etc. Et je crois qu'il y a là un vrai terrain à investir pour permettre aux femmes dont nous parlons ce matin de s'épanouir dans ce mouvement et du coup de rencontrer l'organisation syndicale et de permettre par cette rencontre que leurs droits soient mieux compris et mieux entendus. Enfin, mon troisième point, c'est sur la responsabilité propre de l'organisation syndicale. Ben, je crois qu'il y a déjà des revendications à travailler. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faut comprendre que le syndicalisme, il est fait de revendications très diverses, très concrètes, liées à des situations de travail différentes. Hein. On parlait commerce, cheminot, total, bon, mais c'est pas la même chose. Mais en même temps, ces revendications concrètes et immédiates, selon les organisations, elles sont construites en fonction de stratégies et d'orientations des différentes confédérations syndicales. Donc, pour ce qui concerne la CGT, la cohérence que nous essayons de construire de revendications, outre la question du droit au travail plein et entier pour les femmes, comme je viens de le dire, nous travaillons depuis plusieurs années sur ce que nous appelons un nouveau statut pour le travail salarié, qui, je crois, est en plein dans le sujet que nous traitons aujourd'hui, puisque l'idée, c'est que, alors qu'aujourd'hui, c'est la nature du contrat de travail qui définit le statut du salarié, hein, c'est-à-dire que le statut du ou de la salarié est lié par le contrat de travail, est lié à la fois à la nature de l'employeur, c'est-à-dire que selon qu'on est dans la métallurgie ou dans le commerce, déjà c'est pas la même convention collective, donc c'est pas le même droit, et puis ensuite selon que vous êtes en CDD ou en CDI, c'est pas les mêmes droits non plus, et selon que vous êtes en CDD ou en CDI mais dans une grande entreprise ou dans une toute petite, c'est encore pas les mêmes droits. La CGT nous dit ça, il faut le changer. C'est-à-dire qu'il faut au contraire construire un socle de garanties interprofessionnelles pour tous et toutes qui permettent que le droit individuel de la personne, du salarié ou de la salariée, puisse, quel que soit l'employeur, quelle que soit la nature de l'employeur, grand ou petit, tout au long de la vie, et même quand on change d'employeur, eh bien que ces droits de la personne du salarié puissent être reconnus et respectés. Alors, je n'ai pas le temps de développer. Le deuxième aspect, c'est la question des formes d'organisation collective. Historiquement, c'est comme ça, la CGT est issue de la révolution industrielle, donc elle est fondée en 1895, et donc le syndicat qui est la base de l'organisation de la CGT, c'est un syndicat d'entreprise. Or, dans les dernières années notamment, la notion d'entreprise a bougé, et en particulier les grandes entreprises ont énormément externalisé. Et donc, la CGT essaie de faire évoluer la notion de syndicat d'entreprise autour de l'idée communauté de travail. C'est-à-dire, du moment qu'on travaille dans le même objectif, quel que soit l'employeur, on est une communauté. Et donc, ça permet de concevoir un périmètre du syndicat plus large que le seul syndicat d'entreprise, et donc permettre de rencontrer des salariés qui sont exclus du cœur de métier de l'entreprise, donc en particulier les femmes. Et nous essayons de travailler aussi sur la notion de syndicats multiprofessionnels et de syndicats qui puissent être à la fois territoriaux et professionnels, de façon à être le plus près possible des salariés et de permettre justement cette prise de parole par les salariés eux-mêmes, mais surtout elles-mêmes. Enfin, nous travaillons à des impulsions et des expressions au travers des collectifs, c'est-à-dire que nous avons des collectifs d'assistantes maternelles, des collectifs de salariés qui sont dans les différentes catégories de services à la personne, des collectifs de salariés saisonniers, etc., etc., avec l'idée d'essayer que les syndiqués sortent de l'isolement, que le syndicat permette aux salariés concernés de sortir de l'isolement et en même temps de travailler des revendications collectives.
Bonsoir, bonsoir à tous, c'est toujours FPP 106.3 FM et c'est encore l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Aujourd'hui, l'émission est consacrée aux femmes, comme vous venez de l'entendre, et c'était Maryse Dumas qui nous parlait de l'intérêt du syndicat pour les professions, pour les femmes d'abord, et puis pour les professions où le temps partiel est extrêmement développé. Et évidemment, on comprend tout l'intérêt en écoutant ce reportage. Eh bien, même quand on est isolé dans son travail, même quand on n'a pas d'interlocuteur, justement de se syndiquer pour tenter de prendre conscience de la domination dont on est victime, si on peut dire les choses ainsi. On va terminer par Christiane Marty d'Attaque, qui va nous parler de la retraite des femmes, puisque c'est évidemment d'actualité. Et puis, bah, là, vous allez tout savoir sur ce qui attend nos consoeurs lorsque elles approchent de l'âge de la retraite.
Je pense qu'on va continuer à débattre, peut-être dans le même sens, mais avec peut-être des pistes pour nous montrer comment on peut à la fois avoir des réponses fiables pour améliorer la situation professionnelle des femmes et par rapport aux retraites. Donc je donne la parole pour ce faire à Christiane Marty.
Bonjour. Donc oui, je vais parler de l'enjeu de l'égalité entre les hommes et les femmes pour améliorer le financement des retraites. Dans une première partie, je passerai assez rapidement sur la situation des inégalités. je ne vais pas m'appesantir sur le lien entre, possible entre retraite et précarité. Je vais juste rappeler qu'il y a même un rapport de la Commission européenne qui date de décembre 2009 qui, elle-même, attire l'attention sur le risque de paupérisation des femmes à la retraite, non seulement en France, mais dans tous les pays de l'Union européenne. Donc je pense que ça suffit pour caractériser le risque. Vraiment. Je vais parler des effets du projet de réforme sur les femmes et déjà des mesures correctrices qu'il faudrait de toute façon prendre à court terme. Mais ce que j'aurais surtout, c'est insister sur des politiques alternatives qui seraient possibles, des politiques publiques qui seraient attentives à vraiment agir pour l'égalité entre les hommes et les femmes et qui pourraient donc améliorer à la fois la situation des femmes et également être utiles au financement des retraites. Donc sur les inégalités, bien sûr, le premier point, c'est les carrières plus courtes des femmes, on le sait. Maintenant, les femmes, étant donné que les rôles traditionnels font que ce sont elles qui assument pour l'énorme majorité l'éducation des enfants et les tâches domestiques, les femmes ont des carrières plus courtes, plus morcelées. Alors, c'est vrai que si on regarde au fil des générations les statistiques qui existent, au fil des générations, les écarts entre les durées validées des hommes et des femmes ont tendance à diminuer. Mais ceci étant, voilà, Annie l'a dit, c'est très, très lent. Et aujourd'hui encore, on est vraiment très loin de l'égalité, puisque les dernières générations de femmes parties, pour lesquelles on a des statistiques, c'est récent, hein, elles avaient encore 20 trimestres, c'est-à-dire 5 années de cotiser de moins que les hommes. Et je voudrais faire mettre en regard le ministre du Travail, Woerth, quand il ose assurer des choses qui sont totalement inventées, que les femmes, il s'est dit textuellement, les femmes qui sont nées dans les années 60, lorsqu'elles prendront leur retraite, donc dans 10 ans, hein, auront 15 trimestres de plus que les hommes. Il dit, ce n'est pas le gouvernement qui le dit, c'est le corps, c'est totalement inventé, donc ça montre bien... Ça montre bien qu'il faut insister sur cette question du projet injuste envers les femmes parce que le gouvernement n'a rien d'autre à répondre là-dessus que des mensonges. Sur le discours encore du gouvernement, il dit la retraite n'a pas vocation à corriger l'ensemble des inégalités qu'il y a sur le marché du travail et que le problème des femmes et de la retraite des femmes, aujourd'hui, c'est simplement un problème d'inégalité de salaire. Donc, la retraite, elle n'a peut-être pas vocation, comme ça se discute, à corriger l'ensemble des inégalités. En tout cas, elle n'a certainement pas vocation à les amplifier. Or, c'est ce qu'elle fait, puisque si on regarde le salaire moyen des femmes, tout en travail confondu, il se trouve être 73% de celui des hommes. Si on ne compare que les choses qu'on peut dire comparables avec des réserves, c'est-à-dire que les gens à temps complet, le salaire moyen des femmes ne vaut quand même que 81% de celui des hommes. Et là, quand on regarde la pension moyenne des femmes, tout compris, c'est-à-dire les dispositifs de réversion et les dispositifs majoration de durée d'assurance, la pension moyenne des femmes ne représente que 62% de celle des hommes. La retraite amplifie les inégalités. Autre facteur, il n'y a pas que les salaires qui sont responsables, les carrières courtes, le temps partiel. Le temps partiel, bon, concerne un tiers de femmes et il est extrêmement pénalisant. Surtout et d'abord pour le montant de la pension, puisque la pension se calcule sur la base des salaires perçus, c'est-à-dire des salaires partiels. Et bon, voilà, une carrière qui aurait été passée à mi-temps donnera une pension, une demi-pension. Bon. Mais également, ce qu'on dit moins, ce qu'on sait moins, c'était bien à parler, pour les gens qui ont des temps partiels très courts, c'est-à-dire en gros inférieurs à 15 heures par semaine, la durée travaillée ne valide pas une durée équivalente. Bon. Et donc les femmes travaillent, les femmes parce que c'est surtout elles, hein, il y a quand même 550 000 femmes qui sont avec des temps partiels inférieurs à 15 heures par semaine. Ces femmes cotisent sur leur salaire sans aucun droit à la retraite en retour. Donc elles ont déjà des salaires beaucoup plus faibles et il y a, donc ça c'est quelque chose qu'il faut de toute façon corriger. Donc le projet actuel il pénalise tout le monde, il pénalisera tous les travailleurs des catégories modestes, mais encore plus les femmes, à travers deux mesures. Premièrement, le recul des bornes d'âge. Le fait de passer l'âge légal de 60 à 62 ans, comme de 65 ans, l'âge vidéo plein, 65 ans à 67 ans. Même le corps l'a dit ça, le gouvernement il oublie. Le corps a dit que les décalages de la date de départ seraient plus importants chez les femmes que chez les hommes, ce qui signifie que les femmes seraient plus pénalisées. L'âge de départ de 65 à 67 ans, il faut savoir qu'il y a 3 femmes du régime général sur 10, qui sont obligées d'attendre 65 ans pour partir en retraite parce qu'elles n'ont pas une durée suffisante et que la décote les pénaliserait très fortement. Ce chiffre n'est que d'un homme sur 20. Mais ne pas oublier le deuxième aspect, on en parle beaucoup moins, là, dans le projet de réforme, il y a la confirmation de l'allongement de la durée de cotisation. Ce n'est pas deux choses différentes, c'est la même nature, c'est-à-dire l'allongement, comme on l'a dit, avec des carrières plus courtes. Beaucoup plus de femmes que d'hommes sont bien plus éloignées de la cible, et donc l'allongement de la durée de cotisation est également une mesure discriminatoire. Donc discriminatoire au sens d'une mesure qui apparemment est neutre, mais quand elle pénalise beaucoup plus fortement une catégorie, entre guillemets, de personnes que d'autres, là, notamment selon le sexe, est une mesure, est une discrimination indirecte, et c'est la raison pour laquelle, à ATAC, nous avons lancé une démarche et fait un dossier pour saisir la HAL, on s'est associé avec le collectif national sur les retraites, on a demandé également à des députés de s'associer à nous, d'ailleurs Daniel Bousquet, là, s'est également associé à cette démarche, on est en attente, mais c'est pour montrer que ce projet de réforme est discriminatoire. Et on peut se féliciter tout de même que cette année, on l'entend, je veux dire, tous les dirigeants syndicaux, les partis, c'est dans le mouvement social que c'est passé, que ce projet est injuste envers les jeunes, envers les carrières longues, les métiers pénibles ici, mais envers les femmes. Concernant les inégalités de salaire, donc on l'a dit, depuis maintenant plus de 30 ans, il y a des lois sur l'égalité professionnelle qui se succèdent et qui sont, malheureusement, qui n'ont pas eu suffisamment d'effet. Et donc maintenant, il y en a marre de continuer à dire qu'il faut que les entreprises fassent un rapport, fassent un plan d'égalité. Il faut une pénalisation financière. Il n'y a que ça pour inciter et dissuasive, pour inciter les entreprises à enfin faire quelque chose. Et une pénalisation financière, non pas pour absence de plan, comme l'article le met dans le projet de loi, parce que ça, c'est vraiment se ficher du monde. Il faut une pénalisation financière pour absence de résultats concrets en matière d'égalité professionnelle. Et une pénalisation financière, non pas avec un maximum, comme il est dit, au maximum 1% de la masse des rémunérations, ça ne veut rien dire au maximum, il faut un minimum, il faut une sanction financière planchée, évidemment. Deuxième chose, il faut maintenant en arriver à des revendications plus radicales, comme une augmentation du salaire des femmes à titre de réparation, de rattrapage des inégalités sur les salaires qui s'accumulent tout au long de la carrière. C'est une action positive, c'est tout à fait à accepter et possible dans les termes de la législation européenne. Il serait possible, voilà, le 31 décembre 2010, évidemment qu'on ne l'aura jamais, il serait possible de dire qu'il faut planifier une disparition des inégalités de salaire dans un délai de 5 ans, par exemple. Je pense qu'il faut maintenant que le mouvement des femmes se saisisse de revendications un peu plus fermes. Sur le temps partiel, la première des choses, évidemment, c'est de refuser cette légitimation du temps partiel qui est censée, bon, ça a été dit ce matin, cette notion très hypocrite de dire de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, parce que ça veut dire qu'on accepte la division, la différence des rôles sociaux attribués aux hommes et aux femmes. Il faut absolument remettre ça sur le fond. Et il faut, donc c'est une revendication, demander que les employeurs cotisent pour tous les employés qui sont à temps partiel. Il faut une cotisation des employeurs sur la base d'un temps plein. Ça, c'est une proposition qu'on avait déjà lancée à TAC en 2003, au moment de la réforme passée. Ça se justifie, c'est politiquement et économiquement. Pourquoi ? Le temps partiel est d'abord souvent imposé par l'employeur. Quand on regarde, il est très bénéfique aux employeurs. Prenons le cas des directeurs de supermarché, par exemple, et des caissières. Le temps partiel permet à l'employeur de payer la main-d'œuvre, les caissières, au point, 12 heures de pointe, et de ne pas la payer, donc le reste dans les heures creuses. Ça veut dire que la fluctuation de l'activité, tout le poids de cette fluctuation pèse sur les salariés et que l'employeur n'en voit aucun des inconvénients. Autre raison, le travail à temps partiel a une productivité supérieure, l'heure de travail à temps partiel a une productivité supérieure à l'heure de travail à temps complet. Et ces gains de productivité sont accaparés en totalité par les employeurs. Et autre chose qu'on demande depuis longtemps, c'est évidemment quand Sarkozy disait travailler plus pour gagner plus, qu'on a débloqué les heures supplémentaires, jamais à aucun moment on a parlé de permettre aux femmes qui sont à temps partiel imposé de travailler plus. Et donc sur cette base-là, c'est vrai qu'il faut demander la possibilité de passer à temps complet pour toute personne à temps partiel. Dans les suites des mesures correctrices sur la carrière courte, bon, donc ça a été un petit peu dit pour l'instant, je vais passer vite, on calcule sur la base des 25 meilleures années, donc en 93 c'est passé à 25 meilleures années, c'était 10 meilleures années, on voit bien que d'allonger les meilleures années prises pour le calcul du salaire, pour les gens qui ont des carrières courtes, eh bien ça pénalise plus puisque ça oblige à taper plus dans les mauvaises années. Donc il y a une proposition qui serait de, pour des carrières courtes, la durée sur laquelle est prise la moyenne des salaires devrait être au prorata. Et pour les contrer le fait que les femmes ont toujours et encore des faibles pensions, je crois que 6 ou 7 femmes sur 10 du régime général qui partent en retraite actuellement, quand elles ont des pensions trop faibles, elles sont rehaussées au niveau de ce que le minimum contributif, hein, qui est le minimum dans le système des retraites. Donc 6 femmes sur 10, peut-être 7, mais je n'ai plus le chiffre en tête, ça signifie que ces minimums contributifs ils sont absolument indispensables, mais ils sont encore de niveau trop bas. Il faut absolument revaloriser ces minimums. Et bien entendu, c'est ce qu'on dit, c'est la décote qui est une double pénalisation, qu'un système tout à fait injuste, que la France est un des quelques pays qui l'ont, beaucoup d'autres pays n'ont jamais ce système de décote. Il faut supprimer ce système de décote. Ça veut dire, quand on dit mot d'ordre, la retraite à 60 ans à tout plein, c'est ce que ça signifie, plus de décote.
Bonsoir, c'est toujours FPP, c'est toujours l'émission Mode d'emploi. Vous venez d'écouter Christine Marty d'Attaque qui nous expliquait comment la retraite des femmes amplifie les inégalités salariales entre les deux sexes, et qui nous disait aussi que les femmes seront les premières victimes de cette même réforme, puisque on l'a bien compris, la décote plus le recul du nombre d'annuités augmentera le taux de pauvreté des femmes retraitées. Et puis, elle nous disait au passage que les lois antidiscrimination votées ces dernières années sont pour le moment inappliquées et, pour tout dire, complètement inutiles actuellement. Alors, cette émission se termine. Vous venez d'écouter le colloque sur la précarité des femmes à l'Hôtel de Ville de Paris. C'était un reportage d'Odile. La semaine prochaine, nous parlerons avec Christian de la discrimination au travail. Il recevra des gens de la LICRA. Et quant à moi, je vous dis à dans 15 jours. Merci.